Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein? Par exemple, bon, il y en a plein, hein? Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile, en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce jeudi 11 juin 2026. Et promis, même si on fait le journaliste, on va essayer de vous maintenir en bon état de forme pour une activité intellectuelle. Alors, on va commencer sans plus tarder avec une bonne petite dose, comme régulièrement, de guerre. Et sur fond de racisme, on part d'abord en Irlande, où à Belfast, en nord de l'Irlande, une nouvelle nuit de violence a eu lieu cette nuit après une attaque au couteau pour laquelle un réfugié soudanais avait été inculpé. Des émeutes donc anti-immigrés, hein, qui visent clairement les communautés immigrées, avaient déjà eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi dans cette capitale nord-irlandaise, suite donc à l'attaque au couteau qui a eu lieu lundi soir. D'importants moyens policiers ont été déployés de plus. Au total, plus d'une centaine de manifestants se sont rassemblés en plusieurs points de Belfast, parfois pacifiquement. Mais la situation a encore été très tendue dès le début de la soirée, notamment dans une rue au nord de la capitale de Belfast, où une importante présence policière a été déployée. L'AFP était sur place. Les manifestants ont lancé des projectiles, des briques et des bouteilles de verre sur les forces de l'ordre, et ils ont incendié au moins une poubelle. La police a fait l'usage d'un canon à eau pour disperser la foule. Donc c'était quand même moins grave, le centre de Belfast a été épargné par les violences, contrairement à la nuit de mardi à mercredi, où s'étaient déroulées ces énormes émeutes anti-immigrés, hein, déclenchées donc après cette attaque au couteau lundi soir, qui n'a pas coûté la vie à la victime, mais quand même, il est à l'hôpital dans un état grave. C'est la victime d'ailleurs de cette agression, il s'appelle Stephen Ogilvy, il a perdu un œil dans l'attaque. Il est encore hospitalisé et dans un état stable, c'est ce qu'on en prenait hier soir par sa famille. Mais la famille se dit dégoûtée par les scènes de violence qui se sont déroulées la veille, et donc au nom de la vengeance, hein, pour ce qu'avait subi donc, ce Stephen Ogilvy. Ces émeutes à nature xénophobe ont été qualifiées de choquantes aussi par le Premier ministre travailliste britannique, Keir Starmer, et la police nord-irlandaise annonçait donc la mobilisation d'effectifs en plus, avec des renforts venus du reste du Royaume-Uni, qui devaient arriver également aujourd'hui dans la journée. Les appels à manifester dans la rue, en tout cas, qui ont donc déclenché une partie et amplifié ces émeutes xénophobes, avaient été relayés par des figures d'extrême droite sur les réseaux sociaux, hein, notamment Tommy Robinson, le militant britannique qui s'appelle pour de vrai Stephen Yaxley Lennon, et aussi Elon Musk, le milliardaire américain. Tous deux bien évidemment tranquilles derrière leur clavier, l'un je crois en Russie et l'autre certainement aux États-Unis. Malgré les appels au calme, la tension était donc encore palpable hier soir à Belfast, où de nombreux magasins et restaurants avaient baissé le rideau, les rues du centre-ville étaient désertées, des graffitis islamophobes s'affichaient sur plusieurs murs et rideaux métalliques des commerces du quartier, où un bus avait été ravagé par les flammes la veille. Les violences, si on revient donc à celles de mardi soir, elles étaient survenues après la diffusion donc, d'une vidéo de cette attaque au couteau qui a eu lieu le lundi. On voyait l'assaillant d'origine soudanaise assis sur un homme à terre en sang en lui portant des coups. Les autorités ont dénoncé le rôle des réseaux sociaux et accusé certains d'avoir attisé la colère en ligne. D'ailleurs, le régulateur des médias anglais, Ofcom, un peu l'Arcom de chez nous, a mis en garde les plateformes de diffusion en leur rappelant leurs obligations légales. La police a aussi prévenu que de diffuser sur les réseaux sociaux des adresses de ressortissants étrangers pourrait constituer une infraction pénale. La ministre de la Justice nord-irlandaise, Naomi Long, accusait justement ceux qui, sur les réseaux sociaux, instrumentalisaient la peur légitime que les gens ressentent face à ces événements. Et elle dénonce donc le racisme présent derrière les violences de ces nuits. Le suspect de cette attaque, donc, il s'appelle Hadi Al-Odid, un Soudanais âgé de 30 ans. Il comparaissait hier matin devant un juge à Belfast, inculpé notamment pour tentative de meurtre. Il a refusé la présence d'un avocat, il était accompagné d'un interprète arabophone. Suite à l'audience, il a donc été maintenu en détention jusqu'à sa prochaine comparution qui est pour l'instant prévue le 8 juillet. Ses motivations restent floues, mais la police a écarté à ce stade la piste terroriste. Il était arrivé en 2023 en Irlande du Nord et il avait le statut de réfugié avec un titre de séjour valide jusqu'en 2028 selon le ministère de l'Intérieur. Il était arrivé au Royaume-Uni via la République d'Irlande après être venu de Paris. Trois hommes ont été inculpés mardi soir à Glasgow en Écosse, eux aussi pour des violences au cours desquelles des gens ont été attaqués à cause de la couleur de leur peau. Selon la police, des fidèles musulmans ont dû être enfermés dans une mosquée par mesure de sécurité. Et au sud de l'Angleterre, à Southampton, eh bien, une semaine de manifestations émaillées de veillance avait aussi secoué la ville. C'était en décembre 2025, suite à ce que les gens dénonçaient comme la gestion par la police locale du meurtre d'un jeune étudiant blanc par un jeune homme sikh. On part maintenant encore à l'étranger, en Cisjordanie plus précisément, où des colons israéliens, on a vu les images vidéo, incendient les champs d'un village chrétien, le dernier village chrétien de Cisjordanie. C'est le village de Taïbeh qui, dans la nuit du 9 au 10 juin, a vu ses pâturages partir en flammes suite justement à l'incendie provoqué par des colons israéliens. Donc on est dans ce village de Taïbeh en Cisjordanie qui est la cible d'attaques répétées, hein, et ce depuis l'implantation d'une colonie israélienne à proximité. Et d'ailleurs, quelques heures avant, l'ONU publiait un rapport qui déplore la recrudescence des exactions commises par les colons ainsi que la complicité de l'armée israélienne dans celle-ci. Depuis l'implantation, il y a plusieurs mois, donc, d'une nouvelle colonie israélienne à proximité de Taïbeh, ce village de plus de 1300 habitants majoritairement chrétiens, les attaques ne cessent de se répéter. L'année dernière, des colons avaient incendié sa principale église ainsi que le cimetière adjacent. Cette attaque avait alors suscité une rare condamnation de la part de l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, qui est pourtant un fervent partisan des colonies israéliennes. Mais cela n'a pas empêché les attaques de se poursuivre, rappelle le média Middle East Eye. Taïbeh est un village ancien dont l'histoire remonterait à la période cananéenne, c'est-à-dire plus de 3000 ans en arrière. Il est connu pour ses vastes terres pastorales, ce qui attirerait l'attention des colons, qui avec le soutien donc de l'armée israélienne, progressivement ont empiété sur ces champs. Ce dernier incident s'inscrit dans un contexte de recrudescence des violences perpétrées par les colons israéliens depuis les attaques du Hamas en 2023 et la guerre à Gaza. Le média Middle East Eye toujours rapporte que les colons mènent désormais des attaques quasiment quotidiennes contre les villages et les communautés palestiniennes, notamment du vandalisme, des incendies criminels, des déplacements forcés et des agressions physiques, parfois même à l'aide d'armes à feu. Malgré, je vous le disais, cette commission d'enquête qui a été mandatée par les Nations Unies et qui a soumis son rapport au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, en pointant du doigt la responsabilité du gouvernement israélien dans les exactions des colons en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, l'escalade continue. Selon ce rapport, 7 Palestiniens sont morts en 2025, 832 autres blessés, soit une hausse de 130% des victimes en un an. Selon les enquêteurs onusiens, cette tendance s'est poursuivie cette année avec des attaques perpétrées, je vous le disais, quotidiennement. Et non loin de là, en Iran, visiblement les États-Unis passent à la diplomatie coercitive, un nouveau terme, et bombardent à nouveau l'Iran. Trump perd patience face à des négociations qui s'éternisent. Il a donc ordonné une nouvelle série de frappes sur l'Iran pour mettre la pression sur le régime des Mollahs. C'était dans la nuit, là, vers minuit 45 ce jeudi, que les États-Unis ont commencé à bombarder l'Iran pour la deuxième nuit d'affilée. Le nombre des victimes n'a pas encore été communiqué. L'attaque de la veille, donc du mercredi, elle répondait au crash d'un hélicoptère américain. Cette fois-ci, explique The New York Times, Donald Trump et le ministre de la Défense Pete Hegseth ont fait comprendre que les dernières frappes ne constituaient pas des représailles à une opération militaire, mais qu'elles visaient à mettre la pression sur Téhéran. Voilà, des nuances dans les bombes. Le Pentagone a présenté les attaques comme un acte de diplomatie coercitive pour forcer les Iraniens à des concessions à la table des négociations. Je continue à citer les propos de Hegseth, le ministre de la Guerre, qui fait bien son boulot. Si nous avons besoin de négocier avec des bombes, dit-il, nous négocierons avec des bombes. Nous excellons dans le domaine plus que n'importe quel autre pays dans le monde. Et il s'en vante. Plus tôt, le président Donald Trump lui avait exprimé sa frustration quant au rythme des négociations en prévenant que l'Iran allait payer le prix si les discussions étaient trop laborieuses. Tout ce que Téhéran a à faire, dit-il, c'est signer un bout de papier, insiste le président américain, qui a pourtant répété il n'y a pas longtemps, ces derniers mois, qu'un accord était proche, visiblement pas si proche que ça. Il n'a pas renoncé à la diplomatie, mais sa patience a des limites, explique le quotidien. Le New York Times se demande si les chances d'une avancée diplomatique vont augmenter. En tout cas, elles se sont assombries, notamment quand une délégation de médiateurs qataris a quitté Téhéran hier soir sans avoir fait aucun progrès. Ces frappes de cette nuit pourraient justement peut-être ébranler un cessez-le-feu de 2 mois déjà fragile, s'inquiète par la chaîne CBS News. Car en effet, les échanges de tirs ont continué depuis le cessez-le-feu, mais ils avaient au moins préservé les deux nations d'attaques d'envergure. Donald Trump a aussi confié aux journalistes que ces bombardements avaient ciblé donc des zones à une 50 kilomètres de la capitale Téhéran et aussi le sud-ouest du golfe arabo-persique. Les bombardements ont cessé dans la nuit là, de jeudi, mais ils n'écartent pas une rapide escalade des opérations militaires si l'Iran ne signe pas un accord. Et du côté iranien, du coup, les gardiens de la Révolution, eux, expliquent avoir riposté, notamment en attaquant des bases à Bahreïn et au Koweït. 18 cibles importantes appartenant à l'armée américaine ont été touchées, disent-ils. Avant ces frappes, le représentant iranien aux Nations Unies, Amir Saïd Iravani, prévenait que son pays n'avait jamais négocié sous la menace et la pression. Téhéran assure avoir fermé le détroit d'Ormuz en représailles, mais l'armée américaine, elle, dément la fermeture. Voilà tout ce que j'ai à vous offrir, des infos super fiables. Je vous laisse vous débrouiller avec tout ça.
Je fais what? Mais d'où ça sort, quoi? D'où ça sort?
Et on finit ce petit point sur la guerre au Moyen-Orient en parlant du Liban, où des frappes israéliennes ont fait au moins 12 morts hier. Israël a poursuivi ses frappes au Liban, malgré l'annonce le 4 juin dernier d'un accord entre Israël et le Liban, donc pour un nouveau cessez-le-feu. Du cessez-le-feu, visiblement, ça ne marche que dans un sens. L'armée israélienne donc continue ses raids sur le pays. Le Hezbollah, lui, revendique des attaques quotidiennes contre ses forces dans le sud. On dénombre plus de 3500 attaques aériennes d'Israël sur le Liban depuis le fameux cessez-le-feu. Et c'est la question patrimoniale qui arrive en tout cas jusqu'à nos médias. Les patrimoines, notamment archéologiques, présents sur place, hein, suite à une réunion des États membres de l'agence de l'ONU organisée lundi soir, donc à l'UNESCO, un soutien financier a été demandé pour préserver l'accès à l'éducation, à la culture et au patrimoine du Liban, qui est donc en ce moment donné bombardé par l'armée israélienne, puisqu'en effet, il semble que les destructions deviennent l'objectif principal de ces frappes. C'est le patrimoine en péril, victime de la guerre. Des sites archéologiques, mais aussi des lieux de culte ou des moments historiques ont été endommagés et détruits, donc visiblement visés. Pour les spécialistes, c'est justement la mémoire de ces lieux et de ces communautés qui est menacée à travers ces destructions. Le dernier en date donc, de ce dimanche, c'est le site de Tyr, T-Y-R, qui a été touché par des frappes avec le plus grand dommage depuis le début de la guerre. C'est ce qu'explique le directeur des sites archéologiques dans le sud du Liban, Ali Badawi. On est à une 20 kilomètres de la frontière avec Israël, et Tyr, c'est une des plus anciennes cités du monde méditerranéen. Elle est inscrite de fait au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec 2 sites protégés. La ville est la cible d'une campagne de frappe israélienne depuis le début de la guerre avec le Hezbollah, qui est datée au 2 mars. L'armée israélienne avait émis un nouvel ordre d'évacuation ce dimanche 7 juin justement pour une zone incluant l'un de ces 2 sites, lesquels comprennent des vestiges romains. Et elle a ensuite mené les frappes comme promis. Pour ce qui est de la levée de fonds de mettre en place des protections, suite aux demandes de l'UNESCO, la France, elle, a promis une enveloppe de 200 000 euros. Mais à quoi vont-ils servir? Mystère. On sort du Moyen-Orient, mais on reste dans la guerre avec cette petite brève qui s'intéresse à la planète entière et à la guerre nucléaire, puisqu'une nouvelle course aux armements nucléaires s'annonce. C'est en tout cas ce qu'alertent les observateurs à travers la ICAN, c'est la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. Les dépenses mondiales, donc qu'ils ont épluchées, qui sont liées aux arsenaux nucléaires, ont atteint un niveau record en 2025. Ce rapport a été publié ce 9 juin, donc par l'ICAN, et il s'y intéresse aux 9 États qui sont dotés de l'arme nucléaire. Je vous les rappelle, les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni, la France, l'Inde, l'Israël, le Pakistan et la Corée du Nord. Eh bien, ces 9 pays ont consacré en 2025 presque 120 milliards de dollars à leurs arsenaux, ce qui fait 19% de plus par rapport à 2024. En parallèle, un rapport du CIPRI, c'est l'Institut international de recherche sur la paix, qui est basé à Stockholm, et publié aussi ce 9 juin, alerte sur justement l'aggravation du risque nucléaire mondial. Les puissances nucléaires disposent aujourd'hui d'environ 12 187 ogives nucléaires, dont 9 745 qui sont stockées en vue d'un usage potentiel. Le CIPRI observe que le rythme du démantèlement ralentit alors que le déploiement de nouvelles armes s'accélère. Les États-Unis sont en tête et de loin, premier investisseur avec 70 milliards de dollars dépensés en 2025. Ensuite, en numéro 2, c'est la Chine, mais avec 13 milliards. Ensuite, le Royaume-Uni, 12,6, et la Russie, 9 milliards et demi. Washington et Moscou pris ensemble, ça représente 83% des stocks mondiaux d'armes nucléaires. Donc la guerre froide n'est pas finie. Le CIPRI estime également d'ailleurs que la Chine, de son côté, développe son arsenal plus rapidement que tout le monde et que justement, elle pourrait atteindre d'ici 2030 un niveau de missiles balistiques intercontinentaux qui ressemblerait à peu près au niveau de ce qu'il y a aux États-Unis ou à la Russie. Donc un troisième dans la course. Selon Suzy Snyder, qui est directrice des programmes de l'ICAN et qui est donc la co-autrice de ce rapport, la forte hausse des dépenses consacrées aux arsenaux nucléaires, tout cela combiné aux inquiétudes liées au rôle potentiel de l'intelligence artificielle dans l'accélération des décisions de l'emploi justement de cette arme nucléaire, tout ça, dit-elle, est profondément préoccupant. Elle a clairement dit même « je suis terrifiée ».
Je fais « what ?»
Ouais, un peu terrifiant. Allez, on revient sur des choses un peu plus petites, à notre niveau, à notre échelle. On repart à Carpentras. Je vous ai parlé mardi de la fin des subventions accordées au planning familial par le nouveau maire Rassemblement National de cette ville de Carpentras, dans le Vaucluse. Eh bien, maintenant, il a mis fin à la ferme municipale bio qui alimentait les cantines de la ville. Je suis anéanti, c'était notre plus beau projet, se désole l'ancien élu d'hiver gauche à l'agriculture pour la mairie de Carpentras, Olivier Seyt, qui avait donc porté ce projet. C'est une ferme municipale qui alimentait depuis 2023 donc, les cantines scolaires de Carpentras, où il y a 30 000 habitants, et il a pris fin ce 1er juin, suite à la décision donc, du nouveau maire RN, Hervé de Lepineau, qui a été élu avec un peu plus de 50% des suffrages au second tour des municipales de cette année. La ferme municipale était donc en gestion directe par une régie agricole, des employés municipaux, avec deux agents de la mairie qui cultivaient des légumes bio sur une surface de 2 hectares. Ça permettait de fournir 25% des légumes servis dans les cantines, ce qui représentait 1600 repas par jour pour les enfants. Et leur objectif était d'atteindre les 100% à terme, grâce à notamment une surface totale de 6 hectares et demi qu'ils auraient mis en culture. En s'appuyant entre autres sur cette production agricole bio, la restauration collective proposait ainsi 42% de produits bio, ce qui est bien au-dessus des 20% qui sont eux obligatoires puisqu'ils ont été inscrits dans la loi Egalim qui date de 2018. Le 20 mai dernier, les agents ont été informés qu'il n'y aurait plus de régie agricole au 1er juin, rappelle cet élu qui ne décolère pas. Le maire Hervé de Lepineau a décidé seul, sans aucun débat en conseil municipal ni consultation du personnel de la mairie, des communautés éducatives ou bien des familles. Il se justifie en invoquant encore des raisons budgétaires, l'argument le même d'ailleurs sur lequel s'était appuyé son conseil municipal vendredi dernier pour voter la suppression de 300 000 euros de subventions qui allaient à des associations culturelles et sociales, dont les 3 000 euros dont je vous ai parlé qui concernaient le planning familial. Il précise que la mairie doit se recentrer sur des missions régaliennes, et des missions essentielles de la collectivité en manque de personnel. Vous aurez compris, a priori, ils vont aller faire de la sécurité. Les anciens élus tiennent à rappeler que leur projet était d'ailleurs aussi pédagogique que social, puisqu'ils faisaient venir les enfants sur la ferme pour faire les terres, pour faire les récoltes, qu'ils allaient ensuite manger. Il y a des enfants qui ne savent aujourd'hui pas ce qu'est une salade ou une tomate, et c'était donc aussi un chouette moment pour eux. Les agents de la régie, donc qui travaillaient sur la ferme, allaient aussi dans les écoles pour installer des potagers ou planter des arbres fruitiers avec les élèves. Les produits de la ferme devaient aussi bénéficier aux plus pauvres, puisque dans l'été, il y aurait eu des paniers, comme il n'y a plus de cantine, qui auraient été donnés sur des critères sociaux avec le CCAS local. Voilà donc un projet qui s'arrête. Côté parents d'élèves, presque aucune réaction, en tout cas pas officielle sur la place publique ni sur les réseaux sociaux, à part quelques commentaires qui bah, qui suivent un petit peu ce qu'on a souvent sous les commentaires, c'est-à-dire beaucoup d'extrême droite face au poste de l'ancien élu. Une dizaine d'associations de parents d'élèves sur les écoles, les 10 écoles du territoire ont été contactées par les journalistes, mais aucune n'a souhaité s'exprimer. Visiblement, on a un petit peu peur des représailles. Et certains parents, quand même, se sont désolés, mais sous couvert d'anonymat. Par exemple, celui-ci, un père, hein, qui a été lui aussi demandé l'anonymat, il a dit « c'est comme ça, quand on met le feu dans les urnes, ça brûle ». Pour Michel Blanchard, la vision de l'agriculture de l'extrême droite n'est pas celle de l'avenir pour le bien-être et la santé. Le maire d'Arcarpentras avait été élu député en 2022, et d'ailleurs, si on regarde ce qu'il avait fait au niveau de l'Assemblée nationale, il n'avait transmis des questions au gouvernement en matière d'agriculture que pour défendre l'usage des pesticides, qui allait être interdit, et sur les emblématiques cultures de fraises et de cerises de la région, donc les intérêts encore des gros exploitants.
Audi, Panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
On va parler des CAUE maintenant, on est dans une thématique pas loin, puisque ce sont des organismes, des organisations qui aident les mairies dans leurs projets écologiques et qui sont en bien mauvaise posture, presque un démantèlement même en cours. Ce sont des structures locales donc dédiées à l'écologie, ce sont des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement qui sont présents dans chaque département et qui sont là pour conseiller gratuitement des mairies ou des particuliers pour intégrer des questions environnementales dans leurs projets de construction. Encore un nouveau donc, de ces CAUE risque de fermer. Il y avait déjà eu celui de la Manche qui avait fermé ses portes fin 2025. Bien maintenant, c'est en Gironde que le CAUE est menacé de liquidation avec un nouveau projet de licenciement pour cet été équivalent à une perte de 60% de leurs effectifs initiaux. Autant dire une condamnation à la fermeture pure et simple. C'est ce qu'explique dans son communiqué la CGT, donc des CAUE. Au total, ça représente 10 nouveaux emplois supprimés, en plus des 6 qui étaient déjà actés pour 2025. Et donc, je vous le disais, c'est une tendance nationale, puisqu'à l'échelle du territoire, la Fédération nationale des CAUE craignait au moins une centaine de postes supprimés fin 2025. Et le pire, c'est que cette situation provient a priori d'un problème administratif. Là, on est dans du pur Brésil, un problème ubuesque que Reporter, le journal, avait déjà documenté l'année dernière. Alors, les CAUE sont financés par une partie de la taxe d'aménagement. Cette taxe est prélevée par l'État, puis reversée au département. Il y avait justement une réforme dans les modalités de prélèvement de cette taxe d'aménagement. C'est ce qui a provoqué un gros trou dans les caisses, un manque à gagner d'environ 630 millions fin 2025, d'où l'impossibilité de payer les salaires. Or, ce problème était visiblement administratif et aussi technique. Il n'est toujours pas réglé. En gros, je vous fais un petit résumé, mais une simple petite ligne dans la loi de finances de 2021 a changé l'affectation donc, de cette taxe. Elle a transféré l'organisme responsable de la collecte de la taxe. Elle était auparavant par les DDTM et elle est passée à les DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques. Et un rapport parlementaire du mois de juin 2025 déjà pointait justement des dysfonctionnements graves dans les modalités de collecte de la taxe, en résumant donc toutes les raisons de cette pagaille. Déjà, c'est un problème de poste, tout simplement. Les fonctionnaires qui étaient nécessaires à mettre en place, parce que c'est quand même du boulot de paperasse, etc., n'ont pas été transférés au ministère des Finances. Donc, le savoir-faire qu'avaient les agents du ministère de la Transition écologique, qui se sont retrouvés dépossédés, c'est en partie perdu en chemin. Et en plus, ils ont mis en place un nouveau logiciel censé tout simplifier, certainement là aussi financé chez une boîte privée, et en fait, visiblement, le nouveau logiciel est très compliqué et il a eu l'effet inverse. Bref, c'est toujours la pagaille et en attendant, pas d'argent pour payer ses postes. Donc, des CAU ferment en attendant, ce qui implique, vous l'avez compris, beaucoup moins de possibilités pour les mairies, les particuliers dans les départements, d'obtenir des informations, des aides, etc. pour des démarches écologiques. Face à cette situation, la CGT des CAUE appelle, elle, à une mobilisation nationale et ça sera ce 16 juin.
Il y a de quoi se vendre la gueule, non ?
Allez, on termine par une bonne nouvelle pour eux, en tout cas, et puis on va refaire un petit peu d'histoire en Nouvelle-Calédonie. C'est le mouvement Kanak qui célèbre une victoire en demi-teinte, on va dire. Mais en tout cas, quand même, pour ceux qui étaient emprisonnés, c'est une bonne nouvelle, puisque les poursuites contre 14 militants qui ont été déportés en France en 2024 sont maintenant abandonnées. Mais la décision, vous l'aurez compris, arrive quand même bien tard, hein, 2 ans après. C'était ce 5 juin, soit 2 ans après le soulèvement en Kanaky et des arrestations massives de manifestants, que les juges d'instruction ont annoncé une ordonnance de non-lieu général pour 14 indépendantistes poursuivis. Ceux-ci étaient accusés de terrorisme, puis mis en examen pour des faits criminels commis en bande organisée, et ils ont été enfermés dans des prisons françaises, donc à plusieurs milliers de kilomètres de chez eux, sans voir leur famille, évidemment, en tout cas on leur a pas payé les allers-retours en avion. Ils ont donc finalement été exonérés de toute responsabilité pénale et peuvent rentrer chez eux. On va remonter en arrière quand même parce que l'histoire n'est pas finie sur place. On repart en mai 2024 avec ce soulèvement qui éclate sur l'archipel de Kanaky, donc on est dans l'océan Pacifique, le territoire renommé Nouvelle-Calédonie par la France, qui l'a colonisé à partir de 1853. En 2021, les indépendantistes de l'île boycottent un référendum sur l'autodétermination du pays. Et en parallèle, la crise sanitaire, donc le Covid, accentue les inégalités de territoires sur cet archipel, à savoir que 20% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté et que le revenu médian des non-Kanaks, donc les métropolitains qui viennent souvent de France, est 2 fois plus élevé que celui des Kanaks. Ceux-ci se retrouvent donc marginalisés sur leurs terres et se retrouvent en situation toujours de colonisation, on va dire en tout cas, dans ses effets économiques. Le gouvernement français passe alors en force avec cette histoire de référendum, avec ce qu'on a appelé le dégel du corps électoral, qui permet justement à des personnes qui se sont installées, je ne me rappelle plus de la durée, mais globalement récemment, donc pas de famille issue de l'île, de pouvoir voter. Ce qui place donc les Kanaks en minorité chez eux, et donc le référendum forcément a une issue qu'on devine facilement dans le sens de non-indépendance et de rester dans la France. Macron détruit donc avec ce mouvement de longues années de négociations et de compromis, hein, et il fallait s'y attendre, c'est l'embrasement populaire, les routes sont bloquées, les actions se multiplient, des blindés de la gendarmerie sont déployés. Plus de 2500 personnes sont arrêtées dans les suites de ces violences, des dizaines blessées par balles, hein, dont 12 Kanaks quand même tués par des gendarmes ou des colons armés. Parmi les personnes arrêtées se trouvent 80 détenus, dont des figures du mouvement, hein, le leader indépendantiste Christian Tin notamment, et ceux-ci sont transférés de force dans des prisons ici en métropole, donc à 17 000 km de leur archipel quand même. Ces déportations d'ailleurs sont caractéristiques d'une forme de répression qui sépare les familles et arrache les détenus à leur territoire, causant de sévères dommages psychologiques qui s'apparentent à un traitement inhumain. Par exemple, une des détenues qui s'appelle Brenda Wanabo Ipeze explique avoir subi des conditions d'arrestation et d'incarcération dégradantes, par exemple des menottages systématiques, même aux toilettes ou pour dormir. Donc une forme de répression avant même d'avoir été jugé. Alors, tous ces militants ont fait la cible de la répression à travers notamment leur appartenance ou pas à la CCAT. La CCAT, c'est la cellule de coordination des actions de terrain, une vieille organisation dont la mission était d'organiser la mobilisation contre ce projet de dégel du corps électoral, donc une vieille organisation qui a été remise un petit peu en action par rapport à cette réalité. En 2024, elle trouve une forme d'autonomie en refusant des compromis, tout en mobilisant la jeunesse kanak, donc une frange assez radicale du mouvement, qui dérange profondément donc le pouvoir français. C'est pour cela qu'elle a été démantelée sur la base de procédures aussi expéditives que vides sur le plan juridique, et qu'en juin 2025, suite à un an d'emprisonnement, Christian Tin et 3 autres représentants de ce CCAT avaient finalement été remis en liberté, ce qui montrait que l'affaire commençait un petit peu à se dégonfler, mais ils avaient quand même déjà fait une année derrière les barreaux. D'ailleurs, à noter que pendant leur détention, un des détenus a perdu la vie, hein, Frédéric Groschin, un militant indépendantiste qui avait été emprisonné en juin 2023. Il avait 31 ans, n'avait pas vu sa famille depuis 2 ans. Il est mort en février dernier dans une prison de Bourgogne, hein, loin de sa terre natale. D'ailleurs, continue cet article qui a été rédigé par Contre-Attaque. Dans un élan d'irrespect à sa mémoire, l'État français ne daigne même pas en informer ses proches. Ceux-ci ont appris sa mort par un hasard 3 jours après le décès. Une mort naturelle d'après l'autopsie, faute en tout cas d'un suivi médical adapté. Si la décision des juges était arrivée plus tôt, donc le non-lieu, Frédéric aurait peut-être pu rentrer chez lui et surtout aurait pu bénéficier de soins, il serait en vie. Aujourd'hui, les différents chefs d'inculpation, donc c'était association de malfaiteurs et insurrection au sens pénal du terme, donc des violences destinées à mettre en péril la République, sont tombés, hein, le parquet ont été abandonnés. Même si le parquet fait appel de cette décision de non-lieu, l'abandon des poursuites reste quand même une victoire pour le camp indépendantiste. Et bah, on espère, et les avocats pensent qu'elle devra servir de point d'appui pour exiger la libération et l'amnistie des 2500 personnes qui ont été arrêtées et des 243 incarcérées suite à cet embrasement de l'île. À noter qu'il y a toujours une soixantaine de Kanaks déportés ici, enfin en prison, dans des prisons en métropole. Donc je vous le rappelle, sans visite possible de la famille, à moins de faire le voyage qui coûte des milliers d'euros et d'obtenir un droit de visite.
C'est pour ça.
Ça ne veut plus rien dire, hein ?
C'est pour ça que je crois que j'ai besoin d'un petit remontant. Je vais demander un petit café, c'est pour ça.
Allez, on a terminé ces nouvelles du monde. Effectivement, un petit remontant, on va se faire ça en musique avec un petit featuring qui vient de sortir sur les réseaux sociaux, enfin sur YouTube même. C'est Tom Morello, le guitariste feu de Rage Against the Machine, qui a fait un duo avec Serge Tanakian, lui chanteur de System of a Down, un petit Rage Against the System, on va dire. Ça fait plaisir et le morceau s'appelle Adjourn It.
Des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais qu'est-ce qui se passe?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à midi et demi sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.